dire bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
On ne peut pas imposer son rythme personnel à Fedot. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas. C'est d'une précision effrayante. On est obligé d'entrer dans son rythme à lui, son rythme d'intention. Et il est entièrement dans l'écriture. Tant qu'on ne le met pas en scène, exactement dans les rythmes et dans les intentions, à la seconde près, on n'y arrive pas.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Écoutez donc cette citation. Il faut saluer en lui le mathématicien, l'horloger, l'ingénieur, le Vaucanson, le Blaise Pascal, l'Edison, le thaumaturge, le démiurge, qui invente, rêve, combine, construit, remonte, fait marcher imperturbablement et impeccablement une machine aussi compliquée. Quel peut être l'auteur qui a mérité un pareil hommage ? Je ne ferai pas languir davantage votre curiosité. Il s'agit de Georges Feydeau, dont l'œuvre théâtrale est honorée de la sorte par l'un de ses contemporains, le poète Jean Richepin. Georges Feydeau, dont nous allons parler ce matin avec son excellente biographe, Violaine Héroux, qui est maîtresse de conférences en littérature française à l'Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Il va falloir démêler, en sa compagnie, dans cette vie d'homme et dans cette œuvre profuse, ce qui peut expliquer que parmi tant de dramaturges, parmi les confrères de Feydeau au tournant du 19e et du 20e siècle, dont les pièces ont été englouties par le temps, les siennes continuent de prospérer de semblable façon. Pourquoi donc trouve-t-on encore régulièrement des gens de théâtre ardents à le mettre en scène et des publics enthousiastes dans leur fauteuil? Ce ne peut être que parce que le génie de ses intrigues et de ses formes, tout enracinées qu'elles soient dans leur époque, recèle quelque chose d'universel. En donnant au vaudeville une qualité et un éclat inédits, en nous offrant ce miroir de son temps, Georges Feydeau porte haut le rire spécifique de la belle époque. Un rire qui parle pour elle dans sa pleine dimension, à la fois sociale et culturelle. Mais un rire qui est capable aussi de déferler jusqu'à nous. Et l'envie nous vient de comprendre selon quelle rare inspiration, selon quelle savante mécanique, par-delà ces bourgeois, ces cocottes et ces spadassins datés, l'œuvre de Feydeau nous parle encore très fort, en nous réjouissant sans limite. Et pour commencer, un quiproquo entre une jeune fille bourgeoise qui attend son professeur de piano et un jeune homme qui croit rendre visite à une courtisane notoire.
Mademoiselle, je m'appelle Édouard Loriot, je suis âgé de 25 ans.
C'est un bel âge.
C'est un très bel âge.
Cependant, pour ce qui nous intéresse, l'âge fait peu de choses.
À vous trouver?
Certes.
Ah, vous trouvez que... Oui, enfin, cependant, vous m'avouerez que les jeunes sont préférables.
Eh, les vieux ont plus d'expérience.
Plus d'expérience, soit, mais enfin, cela ne suffit pas.
Je sais bien que l'on dit « si vieillesse pouvait », mais le proverbe dit aussi « si jeunesse savait ».
Oh, mais moi, mademoiselle, je sais.
Oh, je ne parle pas pour vous, monsieur. On n'ignore pas que vous avez fait vos preuves.
Ah oui, ah, vous savez. Oh, bah, ne parlons pas de cela.
D'ailleurs, j'espère bien que vous me le prouverez.
Moi?
Certainement.
Mais avec bonheur, mais quand vous voudrez, mais n'est-ce pas pour cela que je suis venue? Si je vous le prouverais, oh, je suis aux anges.
Eh bien, monsieur, qu'est-ce que vous avez?
Ce que j'ai, mademoiselle. Mademoiselle, j'ai de la fortune.
Oh, alors c'est uniquement pour l'amour de l'art.
Et de l'artiste.
Monsieur, il est très galant.
En amour, mademoiselle, je tiens à vous dire en passant que je serais très facile sur toutes les questions, comment dirais-je, sur toutes les questions pécuniaires.
Mais monsieur, on a dû vous dire, je suppose, quelles sont les conditions.
Ah, du tout, on ne m'a rien dit. Elle va m'écorcher.
Mon Dieu, monsieur, c'est 400 francs par mois à 4 séances par semaine.
Ah, c'est à la séance.
Oui, monsieur.
400 francs par mois et voilà tout.
Quoi, monsieur, vous ne trouvez pas ça suffisant?
Et là, on dit que la vie est chère à Paris.
Il semblerait que vous n'êtes pas satisfait.
Non, c'est qu'en vérité, je suis étonnée.
Oh, vous m'aviez promis, monsieur, de vous montrer facile. Et puis, vous savez, si tout va bien, eh bien, je puis vous dire que l'on ne refusera pas une petite gratification à la fin du mois.
Ah bon? Ah, très bien, très bien, très bien. Oui, je me disais aussi. Oui, 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 oui. Connu, les petites gratifications.
Enfin, voilà, monsieur. Au reste, ce n'est pas moi qui m'occupe de ces détails d'intérieur. Et si vous ne trouvez pas que ce soit suffisant, eh bien, vous parlerez à ma mère.
Aïe, aïe, aïe. Ah, vous avez une mère?
Plaît-il?
Non, je dis, vous avez une mère, une vraie.
Je ne vous comprends pas, monsieur. Vous avez bien dû la voir, je suppose. Sans cela, vous ne seriez pas ici.
Ah oui, 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 en effet, je n'ai rien vu du tout.
Eh bien alors, monsieur, vous pourrez vous entendre avec elle.
Aïe, aïe, aïe.
Pourtant, je doute qu'elle consente à la moindre modification.
Elle ne consentira pas, vous croyez?
Ah, j'en suis même à peu près sûre.
Eh bien alors, puisqu'il le faut, mademoiselle, je me résigne. Va pour 400 francs par mois.
Et à 4 séances par semaine.
À 4 séances.
Voilà qui est bien, monsieur. Et maintenant, si vous le permettez, nous allons commencer.
Enfin, comme ça, tout de suite?
Oui, si vous voulez bien. C'est étrange, qu'est-ce que j'ai pu en faire?
Ah, ça, qu'est-ce qu'elle cherche?
Oh, je l'aurais laissée dans ma chambre. Je suis à vous, monsieur.
Eh ben, cela n'a pas été long. Ah, cela se fait militairement dans cette maison sapristi, une, deux, en avant-marche. Et voilà le progrès. Ah, oh, comme on est en retard en province. Enfin, voilà une petite aventure qui va joliment me lancer.
Violaine Hérault, bonjour.
Bonjour.
C'était Alain Feydeau, le petit-fils de notre auteur, et Monique Gérard, qui interprétait cet extrait d'Amour et piano, une comédie en un acte qui remonte à 1883. C'est un extrait de l'émission de Nicole Strauss du 31 décembre 1968. Nous sommes là en plein quiproquo, et s'il est un mécanisme chez cet horloger qui domine toute son œuvre, c'est bien le principe du quiproquo, non ?
Oui, c'est un principe traditionnel qu'on trouve dans la comédie, dans le vaudeville. Mais le propre de Feydeau, c'est de savoir étirer les quiproquos, parfois les plus invraisemblables, de manière plaisante, sans que le spectateur ne s'ennuie, et toujours en inventant des relances. On se demande jusqu'où, en fait, ça peut aller, cette histoire de malentendu, autour quand même d'affaires sensuelles, qui impliquent une petite jeune fille bien sage et qui parle amour tarifé en toute innocence.
Vous parlez d'absence d'originalité, et pourtant tout lecteur de l'œuvre s'efforce constamment de déterminer ce qu'il y a de particulier, de sans pareil chez Feydeau. Ce qui est une continuité, c'est évidemment le fait qu'il se place dans l'histoire du vaudeville. Peut-être devez-vous nous rappeler quelle est l'origine de cette pièce qui est née dès l'Ancien Régime, du fait de l'existence de théâtre qui avait des privilèges.
Oui, tout à fait. Le vaudeville a une longue histoire quand Feydeau s'en empare. Et au départ, c'est vrai que ce sont des petites pièces comiques sans grande profondeur, parfois très simples, et qui contiennent de la musique. Bon, ça fait vraiment partie des attentes du genre. Il faut qu'il y ait des couplets chantés, mais sur des airs qui existent, sur des airs connus, des timbres. Et les spectateurs reconnaissent ces timbres, mais avec des paroles nouvelles. Et donc, évidemment, ça les ravit. Il y a vraiment un effet de complicité qui se joue. Et puis, petit à petit, le genre se complique et se rapproche, en fait, de la comédie, notamment avec de grands auteurs, de grands noms du vaudeville au fil du XIXe siècle.
Avec un point de départ à la Révolution, ce qui n'est pas une surprise. Le premier théâtre de vaudeville, à côté des grands théâtres connus, c'est 1792.
Absolument, c'est le moment où il y a un grand bouillonnement artistique, théâtral, et le vaudeville a enfin son théâtre à lui. Le vaudeville, précisément, et puis bien sûr, le Palais Royal viendra ensuite. Il y a vraiment une logique de spécialisation dans certaines, à cette époque-là. Les pièces ont un peu leur genre de prédilection.
On prétend, je ne sais pas si c'est vrai, vous allez nous le confirmer, qu'au cours d'une pièce de Labiche au Palais Royal, un spectateur serait mort de rire.
Alors c'est la légende, et puis paradoxalement, ça a attiré beaucoup de spectateurs au spectacle, ce qui paraît un peu étonnant, mais c'était pour le chapeau de paille d'Italie, un chapeau de paille d'Italie en 1851. Labiche, qui est le deuxième grand nom de cette histoire du vaudeville. Il y a Scribe avant, qu'on a un petit peu oublié, mais qui est un immense auteur de comédie, de vaudeville, de drame, de livret d'opéra. Ça fait partie de ces auteurs pléthoriques, très connus au XIXe siècle, qu'on a un petit peu oublié.
Il a pourtant sa rue à Paris.
Ah oui, il a sa rue, il a son buste aussi dans Paris. C'est un auteur très célèbre. Oui.
J'ai été sensible en vous lisant, Violaine Hérault, à ce propos que, au fil de votre biographie, vous nous proposez. Au fond, dites-vous, Feydeau, c'était un génie du rire, comme accablé par la vie.
Oui, alors en tous les cas, c'est ainsi qu'il se définissait quand il parlait de lui-même. Il disait « Je ne ris jamais au théâtre. Je ris très peu dans la vie privée. » Donc ça peut paraître un peu paradoxal quand on voit qu'il est capable de déchaîner les foules et de créer de tels fous rires. Mais c'est vrai que c'était un être assez mélancolique qui traînait une forme de nonchalance, de mal-être, élégant, mais voilà, un peu dépressif.
La vie est courte, mais on s'ennuie quand même, disait-il.
Oui, c'est ce qu'il aurait dit, en effet.
Un peu dépressif.
Oui, un peu neurasthénique. En tous les cas, il a peut-être traité ce mal-être par le rire, mais pour lui, quoi qu'il en soit, la création, c'était une affaire très sérieuse. Il ne s'amusait pas du tout en écrivant. Il avait l'impression de s'enfermer dans un cachot pour écrire ses pièces. Et pour lui, c'était vraiment une œuvre sérieuse que d'écrire du vaudeville.
Dans un des rares écrits où il explique ce qu'a été sa vocation et sa manière de travailler, je vois que notre Georges Feydeau écrit « Je ne ris jamais au théâtre, je ris rarement dans la vie privée ». Et il précise ceci « Quand je commence une pièce, il me semble que je me verrouille dans un cachot et que je m'en évade quand je la termine. Oh non, je ne suis pas du tout de ceux qui enfantent dans la joie. En arrangeant les folies qui déchaîneront l'hilarité du public, je n'en suis pas égayé. Je garde le sérieux, le sang-froid du chimiste qui dose un médicament. » Ce n'est pas seulement Vaucanson qui était évoqué tout à l'heure, le mécanicien du 18e, c'est aussi un chimiste.
Oui, un chimiste du rire. Parce que pour lui, il avait une forme de science du rire. Alors, ça peut être un don aussi, mais il avait une intime connaissance des mécanismes du rire qui, selon lui, devaient marcher à tout coup. Il savait, il se trompait assez rarement. Il était capable de régler à la seconde près l'effet comique qu'il voulait.
Oui, il dit, à propos de sa pilule du chimiste, j'y introduis un gramme d'imbroglio, un gramme de libertinage, un gramme d'observation. Je malaxe du mieux qu'il m'est possible ces éléments. Et je prévois presque à coup sûr l'effet qu'ils produiront. D'où lui vient ce talent spécifique? Comme toujours, il faut que nous allions voir ensemble, Violaine Hérault, quelle fut sa formation. Rappelez-nous comment il a émergé dans ce monde.
Alors déjà, il était fils d'écrivain. Son père, Ernest Feydeau, était romancier, ami de Flaubert, quelqu'un qui avait une grande carrière dans la presse, qui avait beaucoup écrit. Et Feydeau, même s'il l'a connu assez peu de temps, puisque Ernest Feydeau meurt alors que son fils a 11 ans, il l'a sans doute beaucoup observé, travaillé, même si son œuvre n'a rien à voir avec celle de son père. Mais malgré tout, il est né dans un milieu tout à fait artiste et ouvert aux arts. Et c'est sans doute son père qui l'a amené au théâtre pour la première fois.
Il était d'une grande vanité, d'après les Goncourt, qui sont des pipelettes, à vrai dire. Le père, il disait qu'il y avait trois grands hommes dans la littérature au 19e, Victor Hugo,
Flaubert lui, et lui.
Et lui.
Le problème, c'est que c'est vrai que les Goncourt ont la dent dure, mais tout le monde est un peu d'accord sur la vanité d'Ernest Feydeau à l'époque. Ça avait l'air d'être quelqu'un très pénétré de son importance et qui se pensait vraiment un grand artiste. Et la postérité a été, n'en a pas décidé de même.
Donc sa naissance est dans ce milieu particulier. Sa mère mérite qu'on s'y attarde un instant, car elle est à l'origine de beaucoup d'incertitudes sur cette naissance et sur cette origine de Georges Feydeau.
Oui, tout à fait. La mère de Feydeau était une très belle Polonaise dont on a dit qu'elle était courtisane et elle passait pour avoir de nombreux amants, dont sans doute le duc de Morny,
demi-frère
de Napoléon III, et donc peut-être Napoléon III. Et évidemment, les rumeurs sont allées bon train parce qu'il faut bien admettre que Georges Feydeau ressemble très peu à Ernest Feydeau et qu'il y a eu toutes sortes de conjectures, mais ça, malheureusement, nous n'aurons jamais la clé de ce mystère.
C'est Marcel Achard, le grand dramaturge de la génération suivante, qui raconte, il avait beaucoup côtoyé Feydeau, il raconte les réactions de la mère et du fils. Comment peut-on être assez bête pour croire qu'un garçon aussi intelligent que Georges Feydeau est le fils de cet empereur idiot? Georges imitait sur ce point la réserve de sa mère, Morny soit, si vous y tenez, mais Badinguet, non.
Oui, alors Napoléon III n'était pas très populaire non plus à l'époque où ses propos ont été exprimés. Mais c'est vrai que ça devenait un sujet de plaisanterie assez commun, assez banal. Et malgré tout ça, Feydeau a été hanté par cette histoire toute sa vie, parce que voilà, il meurt quand même dans un état proche de la folie au sanatorium de Rueil-Malmaison, et il s'est fait pousser une petite barbiche pour vérifier s'il ressemblait pas un peu à Napoléon III. Donc c'est quand même quelque chose qui l'a vraiment tourmenté toute sa vie.
Vous nous portez jusqu'à sa mort, probablement de la syphilis, comme un certain nombre d'écrivains de ce genre.
Oui, probablement. En tous les cas, lui qui s'est beaucoup intéressé aux dérèglements mentaux, lui qui a montré des ambiances un peu folles sur scène, qui a créé des mouvements proches de la folie et qui voulait emmener les spectateurs dans le fou rire, eh bien, il a fini tristement et pas très conscient de ce qu'il pouvait produire. Enfin, c'était difficile à la fin de vie de Fedot, malheureusement.
Si vous nous entraînez si vite jusqu'à sa mort, c'est parce que vous considérez que sa vie est moins intéressante que son œuvre ?
Non, pas du tout. Mais elle est. Fedot, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup voyagé. C'est quelqu'un qui est resté très parisien, qui a beaucoup sillonné le 9e arrondissement, le 16e aussi où il habitait. Mais voilà, c'est quelqu'un qu'on trouvait très régulièrement chez Maxim's ou à la taverne Pousset ou au café Napolitain. Et il n'aimait pas trop s'éloigner de ces endroits-là. Donc il avait une vie assez réglée, nocturne. Et finalement, il a assez peu dérogé à ce principe.
Il s'exprime rarement lui-même sur les origines de sa vocation, mais ça lui est arrivé. Écoutez donc ce texte où il donne ses raisons d'être devenu vaudevilliste. C'est une lecture de son petit-fils, Alain Fedot, qui a été un comédien remarqué de la Comédie française. C'est un extrait de l'émission « Dans leur intimité, Georges Fedot » de Nicole Strauss, le 31 décembre 1968.
Comment je suis devenu vaudevilliste ? C'est bien simple. Par paresse, tout simplement. Comment ? Ça vous étonne ? Vous ignorez donc que la paresse est la mère miraculeuse, féconde du travail. Et je dis miraculeuse parce que le père est totalement inconnu. J'étais tout enfant, 6 ans, 7 ans, je ne sais plus. Un soir, on m'emmena au théâtre. Que jouait-on ? Je l'ai oublié. Mais je revins enthousiasmé. J'étais touché. Le mal venait d'entrer en moi. Le lendemain, après n'en avoir pas dormi de la nuit, dès l'aube, je me mis au travail. Mon père me surprit. Tirant la langue et d'une main fiévreuse décrépant mes cheveux en mêlée par l'insomnie, j'écrivis une pièce tout simplement. « Que fais-tu là ?» me dit mon père. « Une pièce de théâtre ?» répondis-je avec résolution. Quelques heures plus tard, comme l'institutrice chargée de m'inculquer les premiers éléments de toutes les sciences en usage, une bien bonne demoiselle, mais combien ennuyeuse, venait me chercher. « Allons, monsieur Georges, il est temps !» Mon père intervint. « Laissez Georges, dit-il doucement. Il a travaillé ce matin. Il a fait une pièce. Laissez-le. » Je vis immédiatement le salut, le truc sauveur. Depuis ce jour béni, toutes les fois que j'avais oublié de faire mon devoir, d'apprendre ma leçon, et cela, vous pouvez m'en croire, arrivait quelquefois, je me précipitais sur mon cahier de drame, et mon institutrice, médusée, me laissait la paix. On ne connaît pas assez les ressources de la dramaturgie. C'est ainsi que je commençais à devenir vaudevilliste.
À devenir vaudevilliste, les étapes de cette carrière méritent qu'on s'y attache un instant, Violaine Hérault.
Déjà, on entend dans ses propos la fougue, la passion qu'il a pour ce métier. Il faut aussi préciser que quand il est très jeune, il ne sait pas s'il sera acteur ou s'il sera auteur. Il aime beaucoup jouer et c'est vrai que le début de sa carrière, ça passe aussi par la scène en tant que comédien dans les cercles amateurs. Quand il est tout jeune homme, quand il a 16-17 ans, il se produit dans des petits cercles amateurs. Et il fait tout, il écrit, il joue. Lui, ce qui compte, c'est qu'il ne fasse que du théâtre.
Les monologues, c'est la mode de l'époque.
Absolument, ça a été lancé par Charles Cros, qui lance vraiment la mode des monologues avec Le Harangue Sort. Et c'est un type de texte qui plaît beaucoup parce que c'est un peu l'ancêtre du sketch, le monologue, et les comédiens peuvent jouer ça n'importe où, dans les salons. Il suffit d'une cheminée, d'un piano sur lequel s'appuyer, d'un habit noir, et puis on débite souvent des inepties. Les personnages, ce sont des provinciaux ou des jeunes gens un peu ahuris, et c'est une parole fumiste. Donc, le monologue fumiste avait été très à la mode, et Phédo s'est illustré dans ce genre. C'est vraiment un des auteurs les plus réclamés par les comédiens qui jouent comme ça dans les soirées privées.
Mais il choisit d'installer sa vocation quelque part entre le théâtre réaliste à la Antoine et le théâtre symbolique que Maeterlinck, par exemple, représente à ce moment-là. Il choisit son chemin entre les deux, ce qui est aussi une incitation à faire preuve au début d'une apparente modestie, mais qu'il n'éprouvait pas probablement.
Oui, c'est surtout qu'il veut être joué et que ça n'est pas un révolutionnaire. Phédo, il ne s'inscrit pas du tout dans l'avant-garde. Il est dans ce qu'on appelle alors la pièce bien faite, c'est-à-dire des pièces bien charpentées. Il veut jouer sur les boulevards. En l'occurrence, lui, il choisit le genre comique qu'est le vaudeville. Mais il s'inscrit tout à fait dans la production commerciale de l'époque. Il n'a pas du tout envie de réformer le théâtre. Il veut perfectionner le vaudeville, ça devient vraiment son filon.
Nous avons une dame qui a été le témoin de son plus jeune âge et de sa vocation et de la suite de son comportement. C'est, écoutez bien, la petite fille de la grande Sarah Bernard, Lisiane Bernard, qui raconte ses souvenirs de Georges Feydeau, Georges Feydeau adolescent et Georges Feydeau plus tard.
Eh bien, j'ai été élevée avec les Feydeau, puis ma plus tendre enfance, et avec leur cousin Germain, les Zellman. Et j'ai un premier souvenir de Georges Feydeau, que j'admirais beaucoup. C'était un homme qui était très bon, qui était beau, qui sentait bon. Il était là, tranquille, un peu triste, blond, charmant, et vêtu d'un pyjama de velours violet, je me rappelle, avec un énorme cigare, comme il en fumait beaucoup. Ma grand-mère, Sarah Bernard, m'a raconté un souvenir. Elle m'a raconté, lorsque Georges Feydeau était très jeune, il est venu la trouver en lui disant « Madame Sarah, je voudrais être tragédien ». Alors ma grand-mère lui dit « Ah bon, mon petit Georges, eh bien écoute, dis-moi une scène ». Alors il s'est mis à déclamer une scène tragique, d'un classique quelconque. Et après, ma grand-mère fait C'est tout ce qu'on pouvait sortir d'elle. Quelques onomatopées. Alors elle lui a dit, mais dis-moi, mon petit Georges, je croyais que tu écrivais. Oh, il dit, oui, madame Sarah, j'écris, mais je voudrais être tragédien. Mais tu n'as rien sur toi? Oh, il dit, oui, j'ai un petit lever de rideau. Eh bien, lis-le-moi. Alors, il lui a donc lu ce petit lever de rideau dont j'ignore absolument le nom. Oui, elle s'est mise à rire et à rire. Écoute, mon petit Georges, tu as le pouvoir de faire rire le monde et tu veux être tragédien et le faire pleurer. Mais écris, Georges, écris, 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 écris.
Surtout que, comme chacun sait, il est beaucoup plus difficile de faire rire que de faire pleurer.
Il est peut-être plus difficile de faire rire que de faire pleurer, sûrement, sûrement. Et elle trouvait que c'était mieux, elle, une grande tragédienne, devant ce petit jeune homme. C'est qui lui avait charmant. Apporté une petite scénette absolument charmante.
Alors nous y voilà, Violaine et Raoul, aux portes de cet art spécifique de Georges Feydeau dont nous parlons ce matin, ces mécanismes dont chacun parle. Qu'est-ce que vous avez le goût d'en dire ?
Là, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, faire du comique, ça reste quand même réputé un peu inférieur. Le vaudeville n'a pas beaucoup de prestige à l'époque. C'est sûr que quand on se lance dans le théâtre et qu'on choisit le vaudeville, on sait qu'on ne sera pas regardé comme un écrivain ou comme un auteur littéraire. Donc ça, Feydeau en a tout à fait conscience. C'est au sein de ce théâtre de divertissement que lui, il entend dire quand même des choses profondes sur le monde qui l'entoure, sans avoir l'air d'y toucher.
C'est-à-dire toujours l'idée que les personnages peuvent apparaître comme schématiques, mais qu'en réalité, ils s'expriment pour des réalités sociales, psychologiques, affectives, beaucoup plus profondes. C'est bien ça ?
Oui, tout à fait. D'autant plus qu'il avait conscience que ce qu'il fallait changer dans le vaudeville de son époque, c'était justement les personnages qui manquaient un petit peu d'épaisseur. Et pour lui, il fallait que ces personnages soient des reflets des types contemporains qu'ils pouvaient croiser. Mais très vite, ils étaient pris dans un tourbillon d'événements où ils avaient tendance à devenir un peu des mécaniques folles. Mais ce sont des personnages qui existent. Ce sont pas de purs pantins. Et ça, c'est vraiment ce qui anime Fedot.
C'est ce qu'exprime avec beaucoup de générosité d'ailleurs Jules Lemaître, qui était une plume très renommée à l'époque et qui contribuait à faire les réputations, et qui, lorsqu'il se rend à Monsieur Chasse, cette pièce Monsieur Chasse, qui est centrée sur le trio classique, le mari, la femme et son prétendant, a rencontré un succès immédiat en 1892. Jules Lemaître, qui est une plume réputée, loue cette pièce dans le Journal des débats le 2 mai 1892. Si ce méli-mélo de rendez-vous, ce jeu de cache-cache, ces échanges de culottes et cette débandade de pantins vous font d'avance l'effet de quelque chose de déjà vu, je vous préviens que vous vous trompez, que vous ne les avez pas vus encore, bien qu'on vous les ait montrés quelques centaines de fois et qu'il faut donc aller les voir. Ce plus qu'apporte Fedot, c'est cela qui stimule la réflexion et notamment la vôtre, j'en suis sûr, Vianney Néraud.
Déjà, là, dans un de ses premiers succès, on voit très bien que la pièce est bien écrite, elle est bien construite, que les personnages existent et que tous les effets comiques sont bien amenés et spectaculaires. Hein. C'est ça qui intéresse Jules Lemaître ici. Il voit bien que, en effet, tout est là, tous les ingrédients du vaudeville sont présents, la garçonnière, le lit dans lequel on se croise, les portes qui claquent, les quiproquos, mais... D'abord, c'est très bien fait. Et ensuite, il n'y a pas que cela. Il y a aussi ce qu'on appelle à l'époque l'observation, c'est-à-dire qu'on observe les mœurs et que l'espace d'une scène, eh bien, il y a des choses qui se disent sur le couple, sur l'amour, sur les rapports hommes-femmes, sur l'hypocrisie sociale, sur le désir qui n'est jamais satisfait. Et donc, on a aussi toute cette fenêtre sur l'intimité, finalement, qui s'ouvre.
C'est un monde de violence ou un monde d'optimisme ?
C'est un monde cruel, c'est un monde décevant, surtout. Les femmes et les hommes cherchent l'aventure bien souvent en dehors du mariage, parce que ça c'est inévitable, un adultère est une nécessité dans les ménages de Fedot. Il faut aller voir ailleurs, mais finalement, ça n'est vraiment pas mieux. C'est même une source de tracas, c'est beaucoup trop compliqué et les personnages... soit renoncent à l'adultère, parce que ça met quand même en danger leur réputation, leur fortune, soit sont déçus par ces aventures assez ternes, les hommes étant toujours veules et les femmes étant toujours de mauvaise foi.
Les mariages se passent à peu près aussi mal que les adultères.
Oui, mais en même temps, ce qui est amusant, c'est que c'est vraiment une époque où on parle beaucoup de divorce, puisque c'est assez récent. Hein. Le divorce a été rétabli en 1884.
La loi Naquet.
Par la loi Naquet. Donc, les personnages se menacent très régulièrement de divorce. Ça permet de créer des intrigues intéressantes. Néanmoins, on divorce assez peu. Finalement, on reste ensemble, et pas toujours pour de bonnes raisons. Il n'y a qu'une... Donc, une seule pièce, les personnages divorcent véritablement, c'est La main passe. Mais en réalité, on divorce pour se remarier très vite et recommencer tout à zéro. Donc, le mariage, c'est un petit peu un enfer sans fin et inévitable.
Vous parlez d'un rire républicain, cette Troisième République qui commence. Vous le décrivez comme un moment où on passe du rire comme manière de bousculer la société, à un moment où c'est une manière de réfléchir, une façon de réfléchir à ce qui peut être la personnalisation des individus en face de la machine étatique. Une autre façon de formuler la même question, c'est y a-t-il un rire belle époque ?
Alors les spécialistes du rire, comme Alain Vaillant, vous diraient que c'est très difficile de dire qu'il y a un seul type de rire à chaque époque, parce que le rire, ça dépend de nombreux facteurs culturels. Mais c'est vrai qu'à l'époque où Fedot écrit, il y a une forme d'optimisme relatif, il y a une forme de légèreté assumée, le divertissement est présent partout, et ça se perçoit aussi dans ses pièces, évidemment. On peut dire aussi que c'est un rire qui est transversal. Tous les médias, en fait, hein, c'est vraiment une ère médiatique et tous les médias, finalement, recyclent les mêmes ingrédients du rire. Et ça se voit chez Fedot, qui est ouvert au café-concert, qui est ouvert à tous les types de spectacles, qui recycle aussi de l'humour qui vient de la presse, qui cite Courteline et les Gaîtés de l'Escadron, par exemple. Donc on a comme ça quelque chose qui, en effet, court d'un média à l'autre.
Vous parlez de Courteline et des gaietés de l'escadron. Georges Feydeau ne s'est pas abstenu d'ailleurs de parler de la gaieté triste du service militaire.
Oui, il a fait son service, visiblement sans grand zèle, mais sans indiscipline. Et l'armée, pour lui, c'est quelque chose qu'il respecte, mais qu'il étrille gentiment dans ses œuvres. Il y a une grande pièce militaire de Feydeau, c'est « Champignol malgré lui », écrite en collaboration avec Maurice Desvalières en 1892. Et l'armée, qui est le cadre de très nombreuses œuvres à l'époque, le comique troupier, on le trouve dans les chansons, on le trouve sur scène. Ici, l'armée est bien sûr l'objet d'une satire, mais est liée aussi à une forme d'autorité un peu bornée. Et ce qui intéresse, ce qui a plu, je pense, dans cette pièce, au-delà de la peinture d'une époque et du service militaire, c'était aussi le jeu sur les confusions d'identité, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a que dans l'armée qu'un quiproquo très gros peut passer, parce que de toute façon, les supérieurs ne vous écoutent pas. Les supérieurs ont décidé que vous étiez champignol, même si vous n'étiez pas champignol. Et là, c'est là que la pièce prend un tour un peu fantastique, puisque tout ce que les personnages peuvent dire, de toute façon, ça n'aura pas de valeur, ça n'aura pas de poids.
On est aussi dans le monde du sapeur camembert de Christophe, qui date de la même époque.
Oui, il y a vraiment, enfin, c'est un humour qui est très prisé, et c'est un des grands succès de Feydeau avec Monsieur Chasse. C'est vraiment ce qui lance la carrière de Feydeau, hein, Champignol malgré lui.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Violaine Hérault, je voudrais néanmoins que nous en revenions à ce qui est le centre de ce théâtre, c'est-à-dire le mariage, les rapports entre les hommes et les femmes. À propos de la fameuse pièce « La puce à l'oreille », Léon Trèche, qui est un chroniqueur notoire à l'époque, journaliste, prête ses mots à Feydeau. Je ne sais pas si ils sont authentiques. « Vous prenez la situation la plus tragique qui soit, une situation à faire frémir un gardien de la morgue, et vous essayez d'en dégager le côté burlesque. Il n'y a pas un drame humain qui n'offre au moins quelques aspects très gais. C'est pourquoi, d'ailleurs, les auteurs que vous appelez comiques sont toujours tristes. C'est qu'ils pensent tristes, d'abord. »
Oui, ce sont des catastrophes que vivent les personnages. Simplement, dans le traitement rapide, accéléré, outrancier, exagéré, Feydeau donne à ces événements un caractère comique. Mais en tous les cas, il voulait que ces acteurs jouent cela tragiquement. Qu'ils aient la bouche ouverte, les yeux exorbités, les genoux tremblants, exactement comme dans la tragédie.
Violaine Hérault, de cette émission consacrée à Georges Feydeau, à son originalité, à sa force. Parmi toutes ces pièces célèbres, il y a celle-ci, On purge bébé. Et je voudrais vous faire entendre, c'est la fameuse histoire des hébrides qu'on ne trouve pas dans le dictionnaire, vous faire entendre cet extrait d'une émission qui s'appelait Le rideau se lève, en 1949, avec Jean de Sailly et Madeleine Renaud. On est là au cœur de la fameuse troupe Jean-Louis Barrault, Madeleine Renaud.
Voyons, voyons, ils hébrident, ils hébrident, ils hébrident.
Oh zut, entrez! Quoi, qu'est-ce que vous voulez?
C'est madame qui demande monsieur.
Eh bien, qu'elle vienne. Si elle a me parler, elle sait où je suis.
Madame est occupée dans le cabinet de toilette, elle peut pas se déranger.
Vraiment? Eh bien, moi non plus, je regrette, je travaille.
Bien, monsieur.
Au fait, dites donc, vous.
Monsieur?
Par hasard, les hébrides.
Comment?
Oui, les hébrides, vous savez pas où c'est?
Les hébrides?
Oui.
Bon, non, non, c'est pas moi qui range ici, c'est madame.
Quoi, qui range? Les hébrides, des îles, bougre d'ignard, de la terre entourée d'eau, vous savez pas ce que c'est?
De la terre entourée d'eau?
Mais oui, de la terre entourée d'eau, comment ça s'appelle?
De la boue.
Non, pas de la boue. C'est de la boue quand il n'y a pas beaucoup de terre et pas beaucoup d'eau. Mais quand il y a beaucoup de terre et beaucoup d'eau, comme ça s'appelle des îles.
Ah.
Oh, ça, allez, ça suffit.
Ah, voyons, zébride. Ah non, c'est extraordinaire. Je trouve zèbre, zébré, zébrure, zébu. Mais de zébride, pas plus que dans mon œil. Si ça y était, ce serait entre zébré et zébrure. Non, mais on ne trouve rien dans ce dictionnaire.
Mais enfin, tu ne veux pas déranger, non?
Oh. Je t'en prie, n'entre donc pas toujours comme une bombe.
Oh, pardon. Oh. Ah, tu peux pas te déranger, non?
Et toi, pourquoi faut-il que ce soit moi qui me dérange plutôt que toi?
Oui, bon, c'est juste. C'est juste, nous sommes mariés, alors...
Quoi? Quel rapport?
Ouais, je serais seulement la femme d'un autre, hein, il est probable que...
Bon, laisse-moi donc tranquille, je suis occupé, là tout.
Occupé, monsieur est occupé, c'est admirable.
Mais oui, occupé.
Ouais. Mon Dieu, occupé, et à quoi, je te le demande?
Il y a des choses, probables.
Mais lesquelles?
Des choses, quoi, je cherchais Ilzébride dans le dictionnaire.
Ilzébride, t'es fou? T'as l'intention d'y aller?
Non, j'ai pas l'intention de...
Alors qu'est-ce que ça te fait? En quoi ça peut-il intéresser un fabricant de porcelaine de savoir où sont les Hébrides?
Si tu crois que ça m'intéresse, je te jure.
Sombre vision du mariage, Violet Nero.
Oui, sombre vision, et puis ça reste drôle malgré tout, cette capacité qu'a Fedo à vraiment disséquer le couple sur scène, et en le donnant à entendre dans des dialogues où finalement tout tourne sur le quotidien, le détail, et il arrive à tirer comme ça des scènes comiques d'un petit rien, mais un rien qui est obsédant, voilà, l'orthographe d'un nom, savoir s'il faut ou non purger bébé, parce que c'est quand même le fond ici de cette pièce, bébé, donc qui a quand même 7 ans dans la pièce, mais qu'on appelle bébé est constipé, et malheureusement, le jour où il faut le purger, c'est le jour où monsieur reçoit une visite très importante, une personne qui peut lui acheter sa marchandise, en l'occurrence il est fabricant de pots de chambre, et il reçoit un haut dignitaire du ministère des armées, et donc vous l'avez compris, tout tourne quand même autour de la matière fécale dans cette pièce.
Mais
oui, bien sûr, il y a un humour scatologique tout à fait assumé, et en même temps les contemporains ont été absolument subjugués, c'est-à-dire qu'ils ont comparé Fedot à Molière à ce moment-là en disant mais c'est une très grande pièce, parce que finalement derrière la farce, ce qui intéresse Fedo, c'est les entrailles de la famille où l'enfant prend la place du père, enfin on est dans des choses très freudiennes aussi, mais il cherche vraiment au tréfonds les dysfonctionnements de la famille, de la société, parce qu'évidemment l'invité, on va très mal le recevoir, il va se retrouver purgé même à la place de bébé, et bien sûr c'est aussi une façon de regarder la société de façon assez critique.
Les intestins comme métaphore?
Oui, je crois.
C'est une pièce assez tardive, d'ailleurs. On a l'impression qu'il se libère de certaines conventions qu'il respectait encore. C'est une pièce qui succède à Occupe-toi d'Amélie, La puce à l'oreille, Feu la mère de Madame, et qui précède Mais ne te promène donc pas toute nue, avec toujours l'histoire des apparences. Mais ne te promène pas toute nue, c'est l'histoire d'un député qui rêve d'être ministre et qui voit sa femme se promener toujours dans l'appartement en chemise, avec derrière sa fenêtre, tout près, Georges Clémenceau.
Et oui, c'est le problème, c'est que Clémenceau voit tout chez eux, y compris sa femme Clarisse, qui elle, a chaud, donc elle se promène comme elle veut chez elle. Malheureusement, les apparences, ça compte, surtout quand on a une carrière politique à mener. Et c'est vrai qu'on est ici à la fin, finalement, de l'œuvre de Fedot, dans des petites pièces qui ne sont plus les grands vaudevilles que vous avez cités, et où ce qui intéresse Fedot, c'est vraiment le couple, son fonctionnement et le regard critique qui peut être porté sur la société. Parce que finalement, cette femme qui semble comme ça montrer son corps, elle pose aussi la question de l'obscénité, parce que si on regarde bien cette pièce, le véritable personnage obscène, ce n'est peut-être pas elle, mais plutôt son mari qui est capable de faire beaucoup de compromissions pour devenir ministre. Alors, il veut être ministre de la marine, mais sa femme lui dit qu'il ne sait pas nager, donc ça ne pourrait pas marcher. Mais voilà, il a de grandes ambitions.
Que souhaiteriez-vous dire sur d'autres grandes pièces? Je pense à La puce à l'oreille, je pense à La dame de chez Maxime, surtout. La dame de chez Maxime, où la môme crevette ne cesse pas de répéter « Et allez donc, c'est pas mon père », ce qu'évidemment les contemporains ont pu renvoyer aux incertitudes sur les origines de Fedot lui-même.
Alors, je ne sais pas si les contemporains y ont vu cette allusion, mais en tous les cas, ils y entendent une espèce de cri de liberté de cette femme qui a bien l'intention de se conduire comme elle le veut. La dame de chez Maxime, en l'occurrence, c'est la môme crevette, qui est un personnage de demi-mondaine, de danseuse du Moulin Rouge, et qui, tout à coup, fait irruption dans une famille très comme il faut, et elle doit passer pour une femme du monde. Et malheureusement, elle n'est pas capable de toujours tenir très bien son rôle. Et quand elle se retrouve dans une bonne société aristocratique, elle apprend plutôt aux dames à danser le French Cancan. Et évidemment, ça fait mauvais genre. Mais comme on la prend pour une grande Parisienne, ça passe très bien dans ce milieu provincial parce qu'elle a du chic, elle a du prestige. Et c'est bien sûr une façon très canaille pour Feydeau de montrer toute cette hypocrisie sociale et ce désir de libération finalement aussi qu'on peut voir dans des sociétés un peu rigides où on n'a qu'une envie, c'est de lever la jambe et de s'amuser.
Opposition province-Paris aussi.
Oui, ça c'est très typique de l'humour de la Belle Époque et de tout le 19e siècle. Hein. On s'amuse beaucoup de l'éternel temps de retard des provinciaux sur Paris. La Dame de chez Maxime, c'est aussi une pièce où on retrouve un peu d'humour anticlérical, qui est très typique bien sûr de cette époque-là aussi, même si c'est fait avec beaucoup de bonhomie. L'abbé commente les paroles de la chanson un peu canaille grivoise de la môme crevette. Ça a fait un petit scandale à l'époque, mais il aurait fait proposer un marchandage. En l'occurrence, c'est la duchesse d'Uzès qui lui a demandé d'enlever cette scène du bon curé. Feydeau aurait accepté en disant « moi, je veux faire du divertissement, je ne veux pas choquer les sensibilités des gens ». Donc l'abbé ne sera plus présent aux côtés de la môme crevette au moment de cette chanson. Alors, la légende veut qu'il aurait marchandé cela en disant « arrêtez vos chasses à cour », c'est-à-dire « arrêtez la curée et moi j'enlève le curé ». Alors, je ne sais pas si c'est pour l'amour du mot, si ce mot est vraiment authentique ou pas, mais en tout cas, c'est la légende qui a couru. Et Feydeau s'est un peu vengé quand même dans cette histoire parce qu'il a peut-être enlevé l'abbé, mais le rôle du personnage qui commentait la chanson grivoise n'a pas disparu. En l'occurrence, c'est une duchesse désormais qui dit ses répliques. Et bien sûr, je pense que c'est quand même une petite façon de se moquer de la duchesse d'Uzès qui lui a demandé cette réécriture.
Il était dangereux de s'y frotter, donc.
Après, Feydeau ne veut pas diviser son public, donc il sait ce qu'il peut faire pour transgresser, pour faire rire, mais sans trop déranger. Il faut voir que La Dame de chez Maxime n'est pas du tout une pièce inoffensive, mais c'est un immense succès qui fait plus de 500 représentations en 2 ans.
Quelle est l'intrigue ?
Alors, l'intrigue de La Dame de chez Maxime tourne autour d'une danseuse du Moulin Rouge qu'au matin, un docteur trouve dans son lit. Il ne sait pas du tout ce qu'elle fait là, il ne sait pas du tout ce qui s'est passé entre eux, mais en l'occurrence, elle est bien là et elle est, à un moment donné, obligée de passer pour son épouse, ce qui évidemment est un mélange des genres tout à fait fertile pour un vaudeville.
Un mot encore du dindon, parce que c'est une pièce qui a fait florès à l'époque et qui est une de celles, nous allons le voir, qui a rebondi pour la période contemporaine, ce qui n'est pas sans éclairer l'histoire même du théâtre.
Le dindon, c'est vraiment une pièce sur le désir. Chacun désire la femme du voisin ou la femme du meilleur ami. Et tout le monde est pris dans cette course effrénée à la liaison, à la sexualité. Et donc, il y a ceux qui jamais n'arriveront à concrétiser leur désir. Et puis, il y a ceux qui concrétisent trop et qui sont épuisés. Donc, en fait, ça fait un drôle de mélange et une comédie vaudeville qui tire vers la farce aussi et qui a pu attirer un petit peu les propos sévères d'un certain sénateur Béranger qui était très... très fâché qu'on ne puisse plus aller au théâtre tranquillement avec ses filles sans risquer de se retrouver face à une intrigue trop grivoise.
Béranger, on l'appelait au Sénat le père la pudeur.
Père la pudeur, oui. Il a mis en cause le dindon, particulièrement, au Sénat, avec d'autres pièces, en disant que voilà, c'était un peu trop scandaleux.
Les sénateurs et les députés en ont beaucoup débattu à ce moment-là. Et Marcel Samba, le socialiste, a dit « Quoi, vous vous indignez, mais allez voir aux vitrines des kiosques toutes ces dames plus ou moins nues dont la lubricité prétendue des adolescents fait son miel. »
Alors Feydeau, ça l'a beaucoup amusé aussi parce qu'encore une fois, le vaudeville, de toute façon, utilise la grivoiserie. On y va aussi pour rire du corps. Ça fait partie tout à fait de ces subversions autorisées, même si la censure veille. Mais la censure est tolérante avec ce genre d'humour.
Cette évocation de la vie bourgeoise entraîne forcément celle de la prostitution. Violaine Hérault, dites-nous ce que l'œuvre de Feydeau peut exprimer à cet égard.
Il y a vraiment de grands personnages de cocotte dans les pièces de Feydeau, dans ses vaudevilles. Alors, la dame de chez Maxime est une femme entretenue, mais vraiment la grande cocotte du théâtre de Feydeau, c'est Amélie, dans Occupe-toi d'Amélie, qui réunit autour d'elle sa famille. D'ailleurs, elle a un père qui est fonctionnaire de police. Donc, toutes ces choses-là sont très acceptées. Elle séduit les princes, les futurs, les têtes couronnées. On a ici un milieu qui est totalement interlope, en fait, quand on entre chez cette cocotte, puisque toute la société se croise chez Amélie. Puisque finalement, il est tout à fait toléré qu'on fréquente une grande courtisane en devenir. Son père est inspecteur de police et son frère est un apache, hein, c'est-à-dire un voyou. Donc vraiment, tout le monde est là autour de la cocotte. En revanche, puisqu'il est quand même question du mariage de cette femme, il est tout à fait indécent, il serait tout à fait indécent d'épouser une femme comme Amélie. Elle est tout à fait tolérée, mais chaque monde doit rester quand même séparé. Et c'est souvent ce qui se passe dans les dénouements des pièces de Feydeau. On a bien mélangé les mondes et les milieux sociaux, et puis à la fin, chacun rentre chez soi.
Je voudrais vous donner à entendre un autre témoignage de l'époque, c'est une autre approbation de Feydeau, qui nous paraît assez lucide par rapport à sa postérité, puisqu'il y a eu beaucoup d'ironie, évidemment, autour de ce vaudeville prolongé. C'est celui de Francisque Sarcey, qui était, avec Jules Lemaître, que nous citions tout à l'heure, un des augures du théâtre. C'est son feuilleton, comme on disait. La presse attirait les bourgeois spectateurs en masse, ou au contraire, les faisait fuir. Écoutez ce qu'il dit de la dame de chez Maxime. C'est une lecture de Béatrix Dussane, merveilleuse actrice, qui est aussi une romancière, qui faisait en particulier, à la fin de sa vie, de magnifiques conférences à l'école normale de la rue d'Ulm, et une des salles d'auditoire porte son nom.
Il souligne d'abord dans son feuilleton que cette pièce lui paraît supérieure à toutes celles que Feydeau avait écrites jusqu'à ce jour. Il y avait déjà 7 ou 8 ans que Feydeau avait débuté et avait produit plusieurs grands succès. Ce qui m'étonne le plus, dit Sarcey, c'est la certitude avec laquelle tout est réglé, expliqué, justifié dans la plus extravagante bouffonnerie. Les quiproquos rebondissent sans cesse les uns sur les autres, il n'y en a pas un qui ne soit amené, pas un dont on ne se dise quand il se produit, ben oui, c'est vrai, ça ne pouvait pas se passer autrement. Il n'y a pas un détail oiseux, pas un qui n'ait son utilité dans l'action, il n'y a pas un mot qui ne doive avoir, à un moment donné, sa répercussion dans la comédie. Et ce mot, je ne sais comment cela se fait, ça c'est le don de l'auteur dramatique, s'enfonce dans la mémoire et il reparaît juste au moment où il doit jeter une vive lumière sur un incident que nous n'attendions pas, mais qui nous paraît tout naturel et qui nous charme à la fois par son imprévu et par l'impression que nous aurions dû le prévoir. Je n'ai voulu, c'est toujours Sarcey qui parle, que vous donniez une idée de la merveilleuse prestesse de l'auteur et de sa certitude de main. Tout chez lui est réglé avec la précision mathématique d'un rouage d'horlogerie et tout prend l'allure de la bouffonnerie la plus débridée.
Horlogerie et bouffonnerie, Violaine Héron, on y revient toujours. Et puis cette idée de l'importance du vocabulaire.
Alors Feydeau, c'est vraiment un poète du quotidien, du concret. Il s'amuse avec des termes tout à fait banal. Par exemple, le mot bretelle, eh bien, ça va, évidemment, qu'on peut retrouver dans le vaudeville où il y a beaucoup de déshabillés. Mais les bretelles, ça devient un mot poétique. Donc, on est dans une poésie assez particulière, mais Feydeau fait de la musique avec tous ces mots-là. C'est ce qui fait qu'il a une écriture aussi nerveuse et aussi intéressante. C'est aussi parce qu'il arrive à créer des espèces de partitions avec pourtant des mots qui ne semblent pas très élevés dans le vocabulaire.
Lorsqu'on l'interrogeait sur la postérité de son œuvre, il était très, très sceptique et presque désabusé. Il disait « on jouera peut-être de temps en temps ». Tiens, on jouera peut-être « Feu la mère de Madame ». C'était la pièce que peut-être il portait le plus dans son cœur.
Oui, c'est une pièce qui a très bien marché, qui est la première de ses petites pièces en un acte, qui date de 1908. C'est vraiment une de ses premières pièces sur le couple. Et c'est vrai que c'est une pièce qui a été énormément jouée depuis sa création, avec, vous savez, ce personnage de Lucien qui rentre chez lui très, très tard dans la nuit, qui a fait la fête au bal des Quatre-Arts et qui arrive déguisé en Louis XIV, mais un Louis XIV tout mouillé parce qu'il pleut à l'extérieur, et donc s'engage une scène de ménage avec sa femme, jusqu'à ce qu'un domestique frappe à leur porte, annonçant la mort de la mère de Madame. Et curieusement, cet acte, qui est évidemment, dont le thème n'est pas très comique, cet acte, il en tire, Feydeau, un petit chef-d'œuvre d'humour noir. Et c'est vraiment une pièce qui a marqué son époque et qui a marqué vraiment l'histoire de la réception de Feydeau aussi au XXe siècle, puisque c'est la première pièce de Feydeau à entrer à la Comédie-Française en 1941, avant les autres pièces qui suivront, notamment Le Dindon en 1951.
Que Pierre-Aimé Touchard avait une grande fierté d'avoir introduit effectivement au répertoire. À l'époque, il pouvait craindre que ça n'ait aucun succès. En fait, ça rapportait beaucoup d'argent.
C'était d'ailleurs un reproche qu'on a pu faire à la Comédie-Française en disant « Oui, quand vous voulez vous remplir les poches, vous montez un Feydeau ». Il y a toujours ce soupçon en disant « Mais la Comédie-Française, ça n'est pas le Palais-Royal, c'est au Palais-Royal qu'on joue les farces et les pièces de Feydeau ». Donc, en 1951, faire jouer Le Dindon en 1951 à la Comédie-Française, c'est assez révolutionnaire et provocateur et ça a créé une polémique dans la presse. Mais le public, lui, s'est précipité.
Donc, il faut s'interroger pour finir, Violaine Hérault, sur Feydeau et sa marque. Il faut s'interroger sur les motifs pour lesquels il est si vivant aujourd'hui, alors que tous les autres, les Augier, les Portoriche, les Bernstein ont disparu. C'est contemporain.
Oui, Feydeau nous parle aujourd'hui, je pense, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il parle de choses atemporel, finalement. Il parle de l'égoïsme, il parle de l'ambition, il parle d'amour. Donc tout ça, évidemment, ça continue à nous intéresser. Et puis dans l'écriture, il y a une nervosité, il y a une vitesse, il y a une musicalité, il y a une fantaisie aussi, qui explique que l'influence de Feydeau, elle a été beaucoup plus vaste que l'on pourrait l'imaginer. Elle n'a pas touché seulement le théâtre de boulevard florissant du XXe siècle, mais aussi un théâtre plus avant-gardiste. Et Ionesco disait que lorsqu'il lisait La puce à l'oreille, il était frappé de voir la ressemblance entre cette pièce de Feydeau de 1907 et lui, sa propre production. Il disait « Je crois y voir ma propre obsession de la prolifération ». C'est-à-dire toutes ces portes qui claquent, tous ces mouvements réglés, eh bien, c'est un entassement de situations. C'est un peu ce que Ionesco pratique lui-même. Donc, c'est amusant de voir qu'il y a finalement une résonance jusqu'à l'absurde.
Et alors que certains contemporains disaient du théâtre de Feydeau, comme c'est français, comme c'est parisien, on ne peut qu'être sensible au fait que son audience internationale a été grande. On l'a joué dans beaucoup de pays étrangers, Violaine Hérault.
Mais c'est vrai qu'on l'a joué avec cette étiquette d'auteur parisien. C'est cela qui faisait vraiment le succès aussi de ses œuvres. Je pense à une pièce comme La Dame de chez Maxime qui a été joué vraiment dans toute l'Europe, qui a été joué à Broadway, adapté en comédie musicale, qui continue à avoir une fortune scénique très importante dans le monde entier, qui s'est joué au Brésil du vivant de Feydeau. Enfin, vraiment, c'est une pièce qui a beaucoup circulé. Même si on était obligé, dans les différents pays, d'adapter un petit peu les pièces de Feydeau, parce qu'elles étaient trop... Elles étaient trop crues, elles étaient trop immorales, elles étaient trop piquantes, trop parisiennes.
Ah, c'est français. On est fasciné par les stéréotypes sur la France et en même temps, on s'en méfie, c'est ça?
Oui, il fallait édulcorer tout ce qui pouvait avoir trait au corps. Il y a très peu d'adultère, par exemple, dans les adaptations de Feydeau pour l'Angleterre. On ne se croise plus dans les hôtels, mais plutôt dans les restaurants, par exemple. On trouve des manières comme ça... Monsieur Chasse ne va pas tromper sa femme quand il dit qu'il chasse. Il part à la chasse pour aller jouer aux cartes. Donc on est quand même dans des intrigues un petit peu plus, un peu moins dangereuses, un peu plus inoffensives.
Terne du coup, non? Terne et masculé?
Eh oui, c'est le risque, bien sûr. Mais Feydeau a vraiment été un auteur très célèbre et célébré de son vivant et après. C'est vraiment un des auteurs français les plus joués, oui, bien sûr.
Et depuis que Le Dindon a été joué dans les années 1950, à la surprise de beaucoup, y a-t-il des représentations plus contemporaines qui ont marqué pour développer l'humour noir, pour développer ce que certains ont appelé les couleurs kafkaïennes de Feydeau?
Oui, Feydeau a été longtemps prisonnier d'une image un peu passéiste. C'était un peu l'auteur boulevardier par excellence. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il est tombé dans le domaine public, il y a eu des mises en scène plus audacieuses de Feydeau, même si Feydeau triomphait déjà à la Comédie-Française depuis 1951. Toutes les grandes pièces de Feydeau sont entrées au répertoire de la Comédie-Française.
Au début des années 2000 aussi.
Oui, Feydeau est toujours redécouvert, relu. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'en a plus simplement une vision muséale ou patrimoniale, mais qu'on le tire vers des expérimentations diverses. Stanislas Nordet, par exemple, a projeté les didascalies de Feydeau. On sait qu'elles sont très nombreuses. Il les a projetées sur le décor. On a comme ça des jeux, finalement, avec la matière textuelle de Feydeau qui lui désobéissent un petit peu. Feydeau qui, lui, voulait tout maîtriser, tout contrôler dans la mise en scène. Là, on se rend compte qu'il y a des mises en scène aujourd'hui qui s'affranchissent un peu de son autorité.
Merci Violaine Hérault d'avoir fait ressurgir Georges Feydeau devant nous à ce micro. Nous avons appuyé cette conversation, bien sûr, Violaine Hérault, sur votre biographie de Georges Feydeau, parue chez Gallimard, collection Folio, tout récemment, en 2023. Vous avez également publié, il y a plus longtemps, en 2012, dans les classiques Garnier, La machine à vertige. Feydeau, la machine à vertige. De quoi s'agissait-il ?
C'est la version publiée de ma thèse. Voilà, qui essaye d'expliquer le vertige qui saisit les spectateurs quand on regarde des pièces de Feydeau.
Et c'est dans cette ligne qu'on vous a naturellement confié le volume de la Pléiade, une anthologie des œuvres de Feydeau, 2021, qui témoigne de la vitalité de ce théâtre.
Oui, c'était pour le centenaire de la mort de Feydeau, qui est mort en 1921. Et c'était une occasion de faire entrer cet auteur longtemps méprisé dans une collection de prestige.
Et puis pour accéder aux œuvres complètes, elles ont été publiées dans la collection des classiques Garnier, une édition d'Henri Gidel, grand maître de ses études.
Henri Gidel est vraiment le pionnier dans les études sur Feydeau depuis sa thèse en 1979.
Christophe Barbier, le journaliste, le comédien, l'homme de théâtre, a publié en 2021 beaucoup d'éditions toutes récentes, c'est significatif, a publié Le Monde selon Feydeau avec un joli sous-titre, Porte qui claque, Marie Cocu, Quiproquo et Fou rire. C'est une édition Talendier. Et puis vous avez cité Chemin faisant, ce volume imposant collectif, publié par CNRS Éditions sous la direction de Mathieu Letourneux et Alain Vaillant, qui s'appelle L'Empire du rire, 19e-21e siècle. Vous y avez donné le chapitre consacré au rire au théâtre.
Oui, c'est vraiment un volume qui couvre toute la modernité du rire depuis le 19e siècle. C'est une somme qui est intéressant de consulter.
Eh bien, on le consultera. Une bibliographie très riche donc sur Feydeau, mais elle est plus riche encore sur notre site et vous l'y retrouverez avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également, bien sûr, écouter, réécouter et podcaster cette émission pour rire très longtemps avec Georges Feydeau.
Lorsque ta femme nous surprit, ce fut moi la plus étonnée. Elle te savait infidèle, je ne te savais pas mariée. Elle n'était même pas jalouse, mais réclamait la voix vibrante pour ses bambins, le bon papa qu'avait volé une intrigante. Comme au théâtre. Comme au théâtre. Plus je repense à notre amour, à ses bonheurs et à ses peines, plus je me dis que tu avais le génie de la mise en scène.
Et tout en écoutant une chanson interprétée par Cora Vauquer sur des paroles et une musique de Roland Hardet, comme au théâtre, je vous rappelle que vous venez d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet préparée par Inès Benslama, réalisée par Vincent Abouchard, avec Benjamin Troncin à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, Véronique Jolivet pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel et pour la documentation, Karine Aubertuig.
Comme au théâtre. Comme au théâtre. Comme au théâtre.